Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, bienvenue sur Europe 1, votre 5-7 démarre en direct avec toute l'équipe, Ombline Roche et Martin Lange, oui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Nous sommes le mardi 4 mai.
Tout Parisien est stinké.
Chaque Parisien doit croire en nous, je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je ferai tout pour ramener la victoire, même s'il faut mourir sur le terrain.
Et les Parisiens vont bien avoir besoin d'un Neymar surmotivé, le PSG dos au mur ce soir sur le terrain de Manchester City pour espérer se qualifier pour sa deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée. Est-ce que le mot remontada va trouver sa traduction française après la défaite de 1 au match aller? On fait l'état des lieux des forces en présence dans nos journaux ce matin avant cette rencontre à suivre bien sûr en intégrale ce soir sur Europe 1. Dans le reste du programme, Martin Lange, qu'avez-vous repéré pour nous aujourd'hui?
Eh bien les cinémas qui rouvrent dans 15 jours et les plus grands studios qui s'y préparent déjà. Hier, c'est Marvel qui a annoncé son calendrier de sortie pour les deux prochaines années. De quoi faire saliver les internautes.
On verra avec vous si c'est alléchant. La partition avec vous, Ombline Roche, qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
Sa musique est cool et rétro comme son look. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, je vous présente Leon Bridges. C'est un prodige qui nous arrive du Texas, comme s'il nous racontait une histoire de la musique noire américaine. Il joue de la soul, du R&B, du gospel, sans omettre d'ajouter des touches électro. They tell me I was born.
Leon Bridges dans la partition avec vous Ombline, donc découverte à 6h25 tout à l'heure. Mes invités ce matin à 6h40, Anne-Sophie Valac, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. On reviendra avec elle sur les nombreux dossiers du moment, à commencer par cette annonce hier du garde des Sceaux. 1000 nouveaux postes pour la justice de proximité. On demandera à Anne-Sophie Valac si c'est le début du plus de moyens réclamés par les syndicats depuis des années. Avant cela, à 5h40, c'est la journée mondiale de l'asthme aujourd'hui. 4 millions de personnes concernées en France. Une maladie encore trop mal connue, y compris par les malades eux-mêmes. Alors on va passer en revue et corriger certaines idées reçues avec l'allergologue Sophie Grieux. Elle sera avec nous dans 40 minutes. À 6h20, l'invité inattendu a défendu Dark Vador devant un vrai faux tribunal intergalactique. Et oui, ce 4 mai marque aussi la journée mondiale des fans de Star Wars, May the 4th en anglais. On verra comment ce procès-spectacle a pu résonner avec une vraie cour d'assises parole à 6h20 d'un ténor du barreau. Et puis jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous mènera aux États-Unis, en Argentine, sur les traces de la mort de Maradona, et puis en Allemagne, où, drame national, la fête de la bière est annulée pour la deuxième année consécutive. Vous avez le programme, bon réveil. D'abord un coup d'œil sur le temps de ce mardi, j'y arrive. Bonjour Laurent Cabrol.
Oui, bonjour Théo et bonjour à tous. C'est une journée pluvieuse sur la moitié nord de la France. Il faut dire que le temps a véritablement changé. Il faut parler aussi des vents très forts qui règnent en ce moment sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, alors que le soleil sera encore rayonnant dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Mais le temps a changé vraiment avec l'arrivée de cette zone de pluie. Les températures aujourd'hui vont s'échelonner entre 14 et 21 degrés, mes amis. C'est pas mal pour certains d'entre nous, 21 à Lyon et 17 à Paris, mais seulement 14 degrés à La Rochelle et à Dijon.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Très bon réveil. Votre journée démarre avec un premier journal. On écoute Le Monde changer. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 5h.
Il m'a demandé si j'avais des cours militaires. Je lui ai dit, écoutez, je vous avoue que non. C'est juste que je travaille dans un lieu qui accueille du public, donc j'ai tenté. Il m'a dit, vous avez bien fait.
Tenter sa chance aux portes des centres de vaccination, même quand on ne rentre pas tout à fait dans les critères théoriques pour recevoir une injection, pratique relativement répandue et acceptée par les médecins au nom d'une forme de pragmatisme, vous verrez. Dans ce journal, un concubinage et un divorce. Un concubinage délicat pour Renaud Muselier, qui va vivre une journée tendue avec ses camarades des Républicains, et un divorce sans doute assez cher en milliards de dollars. Bill Gates et Melinda se sépare après 27 ans de mariage.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera dans le Puy-de-Dôme chez notre éleveur Bruno Gourdon pour les doigts dans l'assiette. Très bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les créneaux de vaccination sont pris d'assaut depuis le week-end dernier avec un nouvel élargissement. Pourtant, il y a des règles. Seuls les plus de 18 ans atteints de comorbidité sont concernés. Alors, dans les centres de vaccination, les médecins ou infirmières et infirmiers doivent juger de la bonne foi des personnes qui se présentent, comme celle rencontrée par Jean-Gabriel Bourgeois devant plusieurs centres des Yvelines.
J'ai mes rondeurs qui m'aident un petit peu, voilà.
Surpoids, essoufflement, ce sont des signes extérieurs de comorbidité qui permettent l'accès à la vaccination. Et pour les pathologies moins visibles, la grande majorité des patients respectent les règles.
On a un de nos enfants qui est immunodéprimé, donc du coup, on a le certificat médical.
Hypertension, j'avais l'ordonnance, mais on ne m'a pas demandé. Ouais.
Depuis le week-end dernier, même plus besoin d'apporter un justificatif, c'est le médecin qui apprécie. Au centre de vaccination de Versailles, Romain, 33 ans, a tenté sa chance.
Là, il m'a demandé si j'avais des comorbidités, je lui ai dit, écoutez, je vous avoue que non. C'est juste que je serai dans un lieu qui accueille du public, donc j'ai tenté. Il m'a dit, vous avez bien fait.
Mais les fraudeurs à la vaccination restent marginaux, tempèrent les médecins, le docteur Marie-France Jourdan.
On a un a priori de confiance, mais la façon dont les personnes nous répondent à la façon que nous avons de les interroger, nous voyons bien si elles connaissent leur pathologie, si elles savent la décrire.
À 10 km de là, au méga-centre de Saint-Quentin en Yvelines, Nesrine Ramouni, médecin coordonnateur, résume, la tolérance dépend surtout des stocks de vaccins.
On a quand même des recommandations, on essaie de les respecter au maximum. Si jamais on a des doses à utiliser, on ouvre les critères d'éligibilité, ce qui est normal.
Une souplesse pour ne pas gaspiller de doses.
Jean-Gabriel Bourgeois a noté ce matin que le ministre de la Santé, Olivier Véran, est l'invité politique d'Europe 1 à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Sur le plan économique, la crise sanitaire amène un marathon de négociations cette semaine à Bercy.
A commencer par la réception aujourd'hui des représentants de tous les secteurs les plus touchés par Bruno Le Maire. Réception pour voir comment diminuer progressivement les aides en fonction de la reprise.
Alors les premiers invités hier, les professionnels de l'hôtellerie-restauration, avant même de négocier les aides, Carole Ferry, Bercy veut déjà que la saison se passe bien.
Oui, et pour que la saison se passe bien, les hôteliers seront autorisés à ouvrir leurs restaurants, y compris en intérieur, dès le 19 mai, uniquement toutefois pour leurs clients. Par ailleurs, l'été devrait se passer sans jauge, selon le président de la Fédération des chaînes hôtelières, Jean-Virgile Crance.
À partir de cet été, nous n'aurions plus de jauge à appliquer, quelles que soient les activités, que ce soit restaurant d'hôtel ou restaurant tout court et bar. Il n'y aurait plus de jauge à partir du mois de juillet.
Il y a donc cette volonté que les professionnels réussissent leur saison. En parallèle, le gouvernement diminuerait progressivement les aides avant de retirer totalement la perfusion au mois de septembre. Toute la question maintenant est de savoir à quel rythme se fera cette dégressivité et sur quel mode de calcul. Le secteur de l'hôtellerie-restauration alerte sur le fait que la reprise ne sera pas la même pour tout le monde. Se pose notamment la question des grandes villes comme Paris, qui ne pourront pas redémarrer tant que la clientèle étrangère et le tourisme d'affaires ne sont pas revenus.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Au volet judiciaire, nous suivons toute cette semaine et depuis hier ce procès qui a commencé. Premier procès pour Nordal Lelandais, accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer.
Oui, déjà une confrontation hier entre Nordal Lelandais et la famille de la victime. Premières excuses aussi de l'accusé, mais toujours pas de précision sur les circonstances du meurtre du caporal de 23 ans à Chambéry le 12 avril 2017. Pour Bernard Boulou, qui est l'avocat de la famille de la victime, le véritable enjeu de ce procès va être de réussir à faire dire à l'accusé la vérité.
Il n'a pas voulu dire la vérité, il reste campé dans sa version. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Même le prêtre, en tout cas l'aumônier, a fait en sorte de lui demander de lui dire la vérité, en tout cas de libérer sa conscience. Visiblement, ce n'est pas encore fait. Et la maman, elle n'a pas voulu, enfin, elle n'a pas réussi non plus à convaincre son fils de dire le reste de vérité qui manque. C'est aussi un point positif parce que même sa mère n'arrive pas à le convaincre de dire ce qui manque comme vérité. Vous voyez, donc il y a encore du travail à faire. Donc c'est quelqu'un qui ne dira pas la vérité, c'est quelqu'un qui continuera à rester campé droit dans ses bottes et on va essayer de travailler encore un peu plus demain et après-demain de manière à le faire changer d'avis. Il ne faut jamais désespérer.
Voilà, l'espoir de mettre Bernard Boulou au micro Europe 1 de Jean-Luc Bougeon.
Il est bientôt 5h06 sur Europe 1, les suites du prix psychodrame politique et du casse-tête chez les Républicains.
Après l'annonce par Renaud Muselier d'une alliance avant le premier tour de sa liste de droite avec celle de La République En Marche, en région PACA ou région Sud, les instances dirigeantes des Républicains se réunissent aujourd'hui pour décider d'éventuelles sanctions, Louis Dragnel.
Oui, deux réunions très importantes aujourd'hui pour Renaud Muselier. Ce matin, le Conseil stratégique des Républicains, où, ironie de l'histoire, Renaud Muselier siégera en qualité de représentant des associations d'élus. Et puis ce soir, à 18h30, la Commission nationale d'investiture des Républicains, devant laquelle il va devoir s'expliquer. Un conclave du parti où Renaud Muselier, du fait des statuts, va remplacer son ami Christian Jacob, le président de LR, qui n'a pas eu d'autre choix que de lui retirer son investiture. Un déchirement pour Jacob qui, depuis 48 heures, cherche avec François François Baroin à calmer le jeu, à dédramatiser la situation et éviter l'exclusion de Muselier du parti. Une réunion qui promet d'être tendue, voire explosive, prédit un cadre du mouvement qui estime par ailleurs qu'il y a peu de chances qu'une nouvelle liste LR en PACA soit déposée à temps. Une journée sans doute déterminante pour l'avenir des Républicains qui, au-delà du procès fait à Muselier, entendent démontrer que le seul objectif d'Emmanuel Macron est d'anéantir le parti créé par Nicolas Sarkozy pour n'avoir qu'une seule adversaire à droite en 2022, Marine Le Pen.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. La politique encore avec ce vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vote de la loi climat, texte dont l'esprit est de défendre une écologie du quotidien. Il s'agira notamment de créer des zones de faibles émissions pour les villes de plus de 150 000 habitants. Alors, au cœur du dispositif, il y a le développement des vélos cargo. Vous les voyez de plus en plus dans les villes, ces grosses bicyclettes électriques capables de transporter de lourdes caisses. Elles sont utilisées par les artisans, livreurs, plombiers, fleuristes. Leur achat et leur utilisation seront subventionnées. Jean-Sébastien Soldaini.
Il s'agit d'éviter le recours à la bonne vieille camionnette diesel pour transporter des marchandises ou assurer des livraisons. Pour ça, la première des incitations sera de financer chaque colis livré jusqu'à 2 euros. L'idée est aussi de pousser les artisans à en acheter car ces vélos restent chers, environ 4000 euros l'un, donc pour réduire l'investissement, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, veut les inclure dans le champ de la prime à la conversion.
Lorsqu'un particulier ou une entreprise se sépare d'un vieux véhicule thermique, ils pourront être aidés pour l'achat de vélos électriques ou de vélos cargo.
Pas d'indication sur le montant de la prime, mais la Fédération des usagers de la bicyclette n'imagine pas moins de 2500 euros pour compenser l'envoi d'un vieux fourgon à la casse. Développer le parc ne suffit pas. Le vélo cargo, c'est pour les courtes distances. Les collectivités devront créer des hubs, des centres de stockage et de stationnement pour que les artisans usagers n'aient pas à faire de trop longs trajets. Mais même sur de petites courses, le gain est conséquent. Un vélo cargo, c'est 85% de CO2 en moins qu'une fourgonnette. Mais attention, l'idée n'est pas là de lutter contre le réchauffement climatique, il s'agit plutôt de rendre l'air des grandes villes plus respirable.
Enfin, il formait l'un des couples les plus influents et les plus riches de la planète. Bill et Melinda Gates se séparent.
Oui, 27 ans de mariage qui s'achèvent par un tweet du fondateur de Microsoft, 65 ans, et Melinda Gates, 56 ans, qui s'était tous deux pleinement engagés dans leur fondation depuis quelques années. Alexis Guieux, on ne sait pas grand-chose finalement des raisons à l'origine de ce divorce.
Oui, nous pensons ne plus pouvoir avancer ensemble en tant que couple, c'est ce que dit ce communiqué, mais tout n'est pas fini pour autant, car les Gates précisent bien qu'ils vont continuer à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus grandes et des plus puissantes au monde, plus de 50 milliards de dollars dépensés en 20 ans, notamment dans le secteur de la santé. La fondation Bill et Melinda Gates s'est tout particulièrement illustrée depuis un an en s'engageant dans la lutte contre la pandémie pour le développement et l'accès aux vaccins. Depuis 2014 et son départ de Microsoft, Bill Gates se consacre d'ailleurs entièrement à cette fondation qu'il pilote avec sa femme depuis Seattle sur la côte ouest. Il est toujours le quatrième homme le plus riche de la planète avec quasiment 130 milliards de dollars de patrimoine, mais va-t-il devoir se séparer d'une partie de cette fortune ? On se rappelle d'un précédent retentissant, le divorce du couple Bezos il y a 2 ans. Le fondateur d'Amazon et sa femme étaient parvenus à un accord. Mackenzie Scott avait alors récupéré 36 milliards de dollars. Pour le moment, le couple Gates n'a pas fait de commentaires et demande de l'espace et de l'intimité pour s'adapter à cette nouvelle vie.
Les grands divorces des grandes fortunes. Alexis Guilleux depuis New York pour Europe 1.
Ouais, et puis le divorce officialisé par tweet, c'est aussi une des facettes du monde qui change. Merci, c'était le journal de François Geffrier. Il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et le journal des sports, c'est avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Et à la une, évidemment, ce matin, le PSG face à l'histoire.
Oui, c'est le titre de l'équipe hein, ce matin. Photo de Neymar en gros plan, l'air déterminé. Paris joue à Manchester City sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Pas forcément dans de très bonnes dispositions. Mauricio Pochettino a déjà vécu ce type de match comme entraîneur. Il sait ce que devront faire ses joueurs ce soir.
Être meilleur qu'eux, c'est la seule façon possible d'atteindre la finale. J'ai la même sensation qu'il y a 2 ans quand j'étais à Tottenham. Je me dis qu'on va jouer une très bonne équipe, mais que nous aussi, on a des joueurs de qualité. Ça va être un combat, ça c'est sûr. Il faudra être meilleur qu'eux.
Mauricio Pochettino avec Julien Froment. Le salut viendra peut-être de Kylian Mbappé, mais à cette heure, rien d'officiel sur sa présence ou non sur le terrain au coup d'envoi. Mais pour Pep Guardiola, l'entraîneur d'en face, ça ne fait aucun doute.
Je m'attends à ce qu'il joue pour le monde du football et ce match. J'espère qu'il va jouer.
Hopefully he can play.
Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, interrogé par Cyril de la Morinerie.
Le chiffre du jour, 2,6.
Et voilà qui nous ramène encore au match de ce soir. 2,6 comme la moyenne de buts par match du Paris Saint-Germain à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison. Là, c'est plutôt encourageant. Manchester City, Paris Saint-Germain, émission spéciale dès 20h ce soir sur Europe 1.
En tennis, Lénaïque, c'est un zéro pointé pour les Français à Madrid.
Pas très encourageant à 3 semaines de Roland-Garros puisque Jérémy Chardy, Hugo Humbert et Adrien Manarino ont perdu dès le premier tour sur terre battue. Benoît Paire et Pierre Hugerbert entament leur tournoi dans la matinée.
Cette question également ce matin dans les coulisses, en quelque sorte, de nos fédérations. 120 postes de conseillers techniques sportifs vont-ils disparaître cette année ?
C'est une menace qui concerne l'ensemble du territoire. Devant l'inquiétude du mouvement sportif, le ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, a reçu ses représentants en fin de semaine dernière. Et selon Ludovic Rouillet, qui est le président des directeurs techniques nationaux, 60 postes, a priori, sont déjà sauvés.
Le ministre, je trouve, a bien perçu la problématique. C'est l'adéquation entre l'ambition et les moyens. Aujourd'hui, la France a l'ambition d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Tout ça se fait dans un contexte contraint avec cette pandémie. Et on a besoin, effectivement, de ces ressources que sont les CTS pour faire face aux difficultés conjoncturelles et construire cette trajectoire 2024 et plus, et en faire une réussite.
Ludovic Rouillet, président de l'association des DTN, des directeurs techniques nationaux, interrogé par Axel May. J'ajoute qu'une réunion, une autre réunion est programmée d'ici une petite semaine.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5h13 sur Europe 1, les courses à présent avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 601 Sedabad. Lauréat de ses deux premières courses, ce poulain estimé et longtemps ménagé et qui ne cesse de progresser va passer cet après-midi un sérieux test face à des adversaires eux aussi très doués. Les limites actuelles de Sedabad restent toutefois à déterminer et ce n'est certainement pas par hasard qu'il est engagé dans le prochain prix du Jockey Club programmé le 6 juin. Notez bien, pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 1, Sedabad.
Merci, c'est bien noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
5h14, l'heure d'ouvrir dans un instant notre pressing. Les histoires repérées pour vous dans la presse. Omblin Roche, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin ?
Eh bien, l'éternel débat autour des éoliennes ne va pas prendre fin de sitôt. Si elles produisent une énergie renouvelable, idéale pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, ces éoliennes ne cessent d'être décriées et cristallisent toujours et encore les tensions.
C'est dans la presse ce matin et on en parle dans une minute sur Europe 1.
Europe 1.
L'essentiel à 5h15 et cette nouvelle journée riche en tensions sans doute chez les Républicains. Le parti réunit son comité stratégique et sa commission d'investiture en présence de Renaud Muselier qui risque des sanctions pour son rapprochement avec La République En Marche pour les régionales en PACA. Une phrase clé hier de Nordal Lelandais au premier jour de son procès pour le meurtre du caporal Noyer en 2017. « Oui, j'ai donné la mort à Arthur Noyer mais je n'ai jamais voulu lui donner la mort », c'est ce qu'a déclaré l'accusé. Il encourt 30 ans de prison. La police des polices saisie d'une enquête à Marseille après la diffusion d'images montrant l'interpellation musclée d'un couple qui participait à une soirée clandestine la semaine dernière près de la gare Saint-Charles. Et puis il n'y aura pas d'Oktoberfest cette année, deuxième annulation consécutive de la fête de la bière à Munich en raison évidemment de la pandémie. L'événement rassemble habituellement jusqu'à 5 millions de personnes.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence, comme chaque matin, par la une de vos journaux. Avec les raisons d'y croire pour le PSG à la une d'aujourd'hui en France, les Parisiens qui vont tenter de renverser Manchester City en demi-finale de retour de la Ligue des Champions. Défaite 2-1 au Parc des Princes à l'aller, mais un immense exploit est possible, veut aussi croire l'équipe qui place Neymar en portrait à sa une avec ce titre en forme d'appel au sursaut. Lénaïque Monnier nous en parlait face à l'histoire. L'actu politique aussi fait la une ce matin avec cette question dans Libération. Que restera-t-il de la droite en 2022? Dessin d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen dévorant ce qu'il reste du parti LR désossé dans une grande assiette. Les Républicains qui se réunissent aujourd'hui, on vient d'en parler, pour décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de leur ex-tête de liste en PACA, rappelle l'opinion. Renaud Muselier qui a fait alliance avec La République En Marche. Dans ce contexte agité, l'officialisation dans le Grand Est de la candidature du président de région sortant passerait presque inaperçu. Et pourtant, le LR Jean Rottner y retourne, il l'annonce aux dernières nouvelles d'Alsace. Pendant que sur le front sanitaire, le Figaro se penche lui à nouveau sur la thèse d'une fuite du coronavirus d'un laboratoire chinois. Les Échos dissèquent, eux, le nouveau plan d'aide aux entreprises promis par Bruno Le Maire. Attention à ceux qui resquillent en ce moment à la frontière. 2000 PV dressés pour des voyageurs arrivant sans test PCR depuis l'Espagne. C'est ce que révèle l'éclair des Pyrénées. Enfin, une bonne nouvelle à la une du Progrès. Lyon retrouve ses nuits. Les nuits de Fourvière auront bien lieu après leur annulation l'an passé. Jauge réduite, certes, et passe sanitaire obligatoire. Mais une programmation fournie, salue le quotidien rodanien, avec la part belle aux artistes français, parmi lesquels Alain Souchon, Pomme ou encore Benjamin Biolay. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, il est donc question d'éoliennes.
Oui, c'est Libération qui consacre un dossier au parc éolien français au lendemain du rassemblement de pêcheurs opposés à la construction de 62 éoliennes géantes dans la baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Elles doivent être mises en service en 2023. Et donc, le quotidien revient sur les questions soulevées par les opposants, mais aussi par les soutiens. Alors oui, l'éolien fait partie des solutions pour s'affranchir des énergies fossiles et son taux d'émission en CO2 est très faible, hein, précise l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Il s'agit d'une énergie verte côté matériaux. Les éoliennes sont constituées d'acier, de fonte et de béton facilement recyclés. En revanche, pour fabriquer les pales, l'utilisation de certains éléments métalliques qu'on appelle des terres rares pose question. En fait, leur extraction pose globalement des problèmes d'impact environnementaux, dit l'ADEME, sans parler de notre ultra-dépendance à la Chine. Mais d'une manière générale, pour ce qui est de l'environnement, la pollution est surtout visuelle. Il faut dire que certaines éoliennes sont plus hautes que la tour Montparnasse à Paris. Pour la Ligue de protection des oiseaux, que ce soit en forêt ou sur de vastes plaines cultivées, les éoliennes représentent un danger, surtout pour des oiseaux migrateurs. Les passereaux sont le plus souvent touchés. Les chauves-souris ne sont pas non plus épargnées. Des plans de bridage d'éoliennes doivent être élaborés pour limiter ces mortalités. Concernant enfin l'impact des éoliennes sur la santé humaine, alors si l'ANSES dit vouloir continuer les recherches, elle a conclu en 2017 qu'il n'y avait pas d'arguments scientifiques suffisants qui démontre un lien entre exposition aux éoliennes et effet sur la santé. Il n'y aurait pas d'effet stroboscopique lié à la rotation des pales, qui provoquerait des crises
d'épilepsie. Stroboscopique, on apprend des notions. En
oui,
plus.
Alors c'est pas du tout prouvé. En revanche, il est indéniable que la dépréciation immobilière après l'installation d'un parc éolien près de chez soi et la défiguration du paysage génère stress et trouble, donc un effet malgré tout sur la santé humaine. Alors quoi qu'il en soit, on n'est pas prêt de mettre d'accord partisans et opposants aux éoliennes. Décryptage à lire dans Libération aujourd'hui.
Merci beaucoup Omblin. Je ne sais pas si vous deviez assister à des mariages, Martin Omblin, ce printemps ou cet été.
C'est annulé.
Mais vous pouvez, figurez-vous que vous pouvez préparer vos discours, vos plus belles robes ou vos plus beaux costumes. Les festivités vont à nouveau pouvoir se tenir sans la règle drastique des 6 invités maximum. C'est le journal Aujourd'hui en France qui révèle le nouveau protocole sanitaire qui va être en vigueur. Il sera désormais possible de convoler en juste noce devant plusieurs dizaines de convives. La nouvelle jauge sera fixée à 35% de la capacité de la salle dans laquelle vous faites la réception. Sachant que ces salles font 200 mètres carrés en moyenne en France, selon les professionnels du secteur, ça vous donne environ 70 invités. Alors c'est pas Byzance, certes. Attention, les repas assis en intérieur restent aussi interdits. Mais ce protocole va progressivement s'assouplir assez vite, puisqu'au 9 juin, on pourra passer à une jauge de 50% de la salle occupée. Et si tout va bien, après le 30 juin, ces restrictions pourraient même carrément être levées. Après le 30 juin, donc soulagement, vous l'imaginez, pour les centaines de couples qui avaient reporté leur mariage, parfois à plusieurs reprises. C'est ce que rappelle Aujourd'hui en France, qui soulève néanmoins une question. Est-ce que la fiesta pourra se poursuivre au-delà de 21h, qui sera le nouvel horaire du couvre-feu à partir du 19 mai? Figurez-vous que le gouvernement devrait décider dans la semaine si la bamboche de la nuit de noces est un motif valable pour déroger à ce couvre-feu. Un futur marié interrogé par le journal le reconnaît tout de même. Ce serait plus cohérent de laisser les gens rentrer chez eux, de ne pas les faire dormir sur place. Plusieurs dizaines de personnes sur des matelas gonflables dans une même pièce, c'est pas l'idée du siècle, on lui donnera pas tort. D'autant que, poursuit-il, on va pas demander à nos invités de porter un masque en dormant. Effectivement, je pense que c'est assez compliqué. Il faudra donc sûrement écourter un petit peu la soirée. Mais les mois qui viennent s'annoncent quand même festifs, avec une forme de rattrapage de toutes ces unions décalé. On s'attend à 40 000 mariages en juin, 40 000 en 30 jours, selon les organisateurs. Un mariage tous les deux jours en juillet et août, indiquent les professionnels du secteur. Voilà, vous avez de quoi renfiler oui. vos, vos robes et vos costumes. On termine avec vous, Martin Lange.
Oui, avec de la bière ce matin. Hein. Chouette, à 15 jours de la réouverture des bars, je vous vois venir, Théo. Sauf que la bière dont je vous parle, elle est volontairement dégueulasse et c'est son créateur qui le dit.
Si c'est ça la bière du futur, j'en boirais probablement moins.
Voilà Cody Rafe, hein, le concepteur de la Torch Earth, la terre brûlée en français, une bière imaginée par le brasseur américain New Belgium. L'idée, créer une bière brassée dans un monde ravagé par le changement climatique, un monde où les matières premières manquent, où l'eau n'est plus pure, d'où le nom de ce breuvage, hein, terre brûlée.
La bière est un produit biologique et agricole qui sera très affecté par le changement climatique. Donc c'est assez intéressant de savoir à quoi pourrait ressembler la bière dans ce monde que nous essayons d'éviter.
Alors concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à une bière traditionnelle ? Eh bien, en lieu et place du houblon et du malt frais, ils n'utilisent que des extraits. Et pour l'eau, eh bien, elle a un goût de fumée. Effectivement, ça ne fait pas rêver, surtout à 33€ le pack de canettes.
Mais je vous pose une question, Martin Lange. Si elle est vraiment mauvaise, quel est l'objectif ? Parce que personne ne va en acheter.
Eh bien, effectivement, même dans le spot de pub, tout le monde est unanime, c'est immonde. Alors, l'objectif, il est simple, sensibiliser à la protection de l'environnement. La terre brûlée est en fait la partie immergée d'une grande campagne de com initié par le brasseur américain Drink Sustainably, buvez durablement, dont le but est de mettre la pression sur les grandes multinationales pour qu'elles adaptent leurs outils industriels au réchauffement climatique. L'année dernière, New Belgium s'était déjà fait remarquer avec une pleine page de pub dans le New York Times. Un pack de 6 à 100€, il va falloir
quand
vous
même,
y habituer.
Ouais.
Le brasseur avait d'ailleurs concrètement augmenté le prix de sa bière vedette pendant 24 heures pour montrer les effets du réchauffement climatique. Une bière qui est d'ailleurs la première à être certifié neutre en carbone aux États-Unis. Un brasseur lance la bière du futur volontairement dégueulasse, c'est à lire sur Slate.
Et de quoi assurer la distance sociale dans les terrasses des cafés quand ils vont rouvrir,
évidemment.
Merci Martin, merci Omblin pour ce pressing. À tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Il est 5h24 et nous sommes dans le Puy-de-Dôme ce matin pour les doigts dans l'assiette, dans la ferme du soleil où nous attend notre éleveur Bruno Gourdon. Bonjour Bruno.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Comment ça va chez vous ce matin ?
Eh bien, écoutez, ça va plutôt bien. Petite température dehors, près de 2 degrés.
Voilà. Ah oui, effectivement, c'est encore frais. C'est un jour agréable en tout cas pour vous aujourd'hui et pour vos bêtes aussi surtout. Ça y est, vos vaches et vos génisses vont retrouver le grand air.
Et oui, après une longue période hivernale à peu près qui a duré à peu près 6 mois, puisque c'est un peu la durée à laquelle elles restent à l'intérieur des bâtiments. Par rapport au climat, l'hiver a été un petit peu plus compliqué cette année. On a eu un petit peu plus de neige que d'habitude. Donc, beaucoup aussi de casse dans les parcelles, sur les clôtures. Donc là, tout de suite, c'est la fin de la réparation hivernale de ces clôtures-là. Et puis, pour les bêtes, c'est le retour à l'air.
Le retour au pré. 85 vaches, je crois, sur votre exploitation. Qu'est-ce que ça implique de les remettre à l'air ? Parce que vous avez dû les préparer d'une manière ou d'une autre.
Oui, alors déjà, moi je commence depuis, quand la météo le permet, déjà de les mettre dehors au moins la journée. Donc ça commence à les habituer un petit peu à manger l'herbe, puisqu'il faut faire ce qu'on appelle une transition. Et comme ce sont des ruminants, il faut préparer un petit peu la sortie et faire en sorte que les animaux s'habituent au régime de l'herbe, puisqu'après, là, ils vont passer à partir d'une dizaine de jours à manger que de l'herbe, nuit et jour. Alors là, la journée, elles vont dehors, elles vont manger de l'herbe. La nuit, elles restent, parce que les nuits sont encore fraîches, encore ce matin, de 2 degrés. Donc les nuits sont encore fraîches, donc elles vont manger encore du foin à l'intérieur la nuit. Et ce qu'il va faire, on va faire comme ça pendant une petite dizaine de jours pour les habituer tout doucement à prendre ce rythme de manger de l'herbe.
C'est un moment essentiel pour elles, on l'imagine. Vous arrivez à voir leur réaction ? Est-ce qu'elles sont heureuses de retrouver les prés ?
Oui, c'est vrai qu'on note quand même une très belle réaction des vaches aller à l'extérieur comme ça. Donc on a tous les ans, je participe à ce que j'appelle la danse des vaches. Les bêtes quand elles arrivent dehors le premier jour, c'est un peu fofolle, un peu
la danse des vaches. Alors, vous dites, oui, d'accord.
C'est ça. Alors c'est un phénomène aussi que, alors on n'a pas la danse des vaches, mais on a quand même aussi, on relève ce phénomène un peu joyeux à la mise à l'herbe. Mais on a aussi un phénomène inverse à l'automne où les animaux ont envie de rentrer à l'intérieur.
D'accord, donc c'est pas la déprime quand elles rentrent, mais là, elles vont gambader de manière rythmée, rythmée et très heureuse. Elles vont rester jusque dehors jusqu'à quelle période à peu près ? Là, la nuit, vous ne les rentrerez plus jusqu'à quelle période ?
Eh bien, si tout va bien, on va essayer jusqu'au 15 octobre. 15 octobre, à partir du 15 octobre, les nuits vont revenir extrêmement fraîches, donc elles vont rentrer, on va refaire le système à l'inverse. Mmh. Elles vont rentrer la nuit dans les bâtiments. Et puis après, quand on va arriver vers le 1er novembre, c'est vraiment le dernier cara où après, elles vont à l'extérieur. Quoi.
D'accord.
Alors, les plus jeunes, on peut les amener un petit peu plus loin, généralement vers le 15 novembre, peut-être début décembre. Après, c'est la météo qui va décider sur les plus jeunes, la date de rentrée. Hein. Il y a 2 ans, le réchauffement climatique, on l'avait vraiment subi puisque les jeunes étaient rentrés le 15 janvier. Donc, en 25 ans, ça n'était jamais arrivé.
Ah oui, c'est incroyable.
Ouais. D'habitude, généralement, quand on arrive vers le 15 novembre, c'est terminé. Et là, même l'an dernier, j'avais ressorti mes génisses puisque jusqu'au 10 décembre, il avait fait extrêmement beau, donc ils étaient restés dehors relativement tard. Mmh. Donc on voit que chaque année, la date se rallonge un petit peu.
Alors qu'il peut faire frais en principe l'hiver dans le Puy-de-Dôme. Une dernière question, oui. Bruno Gourdon, vos journées, vous le disiez, sont bien remplies parce que les champs, il faut les clôturer pour que les vaches y restent et vous avez eu des dégâts, c'est votre chantier du moment, je crois.
Et oui, là, j'arrive sur la fin, donc ouf, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment du travail. La neige a beaucoup poussé les clôtures.
Ouais, vous aviez combien de mètres de clôture à renouveler?
Ouais, c'est une très bonne question, j'ai jamais mesuré. mais c'est un kilomètre que ça se mesure.
Ouais. C'est du bois à couper hein, pour faire les piquets, du grillage à dérouler, vous faites ça tout seul ou vous avez un peu d'aide?
Non, j'ai mon épouse et mon fils qui me donnent un petit coup de main là-dessus. Alors les piquets, on les achète, maintenant on les fabrique plus, puisque moi j'essaie de préserver mes par rapport à la biodiversité. Donc j'achète les piquets de clôture et les fils qui vont avec.
Voilà. D'accord, bon, vous en venez à bout en tout cas et j'ai noté la danse des vaches pour vos 85 vaches et génisses qui retrouvent les prés aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Gourdon,
mais notre éleveur prie, bonne journée à vous.
Dans le Puy-de-Dôme, très bientôt dans les doigts dans l'assiette.
Merci.
Un point sur la météo, tiens Laurent Cabrol, on parlait de neige avec Bruno Gourdon, à quoi s'attendre au-dessus de nos têtes en ce mardi?
Bah oui, la pluie est arrivée, alors elle est arrivée hier soir, elle a progressé pendant la nuit. Nous avons encore à l'arrière de cette zone de pluie, nous avons des vents extrêmement forts, entre 80 et 100 km/h sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Les averses se multiplient dans les régions qui bordent la Manche, mais la pluie, le corps pluvieux, se situe maintenant sur une bonne partie de la France, sur la vallée de la Loire, le centre, la Lorraine, l'Alsace, le Poitou-Charentes, la région parisienne, autant de contrées où la pluie sera là et durant la matinée. Ensuite, elle va descendre encore un petit peu d'un cran, toucher des régions un peu plus au sud, mais seront épargnés tout de même le sud-ouest, le sud du massif central, comme le Lot-et-Garonne par exemple, ou le Tarn-et-Garonne, et le bassin méditerranéen, un peu comme la région Rhône-Alpes. Nous aurons dans ces contrées encore du soleil une bonne partie de la journée. Les températures maximales aujourd'hui, 14 degrés à Brest comme à Lille, il fera 15 degrés à Vannes, à Strasbourg et Colmar dans le courant de l'après-midi, 16 à Paris, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, 18 degrés du côté de Bourg-en-Bresse, 19 à Saint-Giron, et 21 degrés à Lyon et à Montauban.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener la victoire, cette fois, quoi qu'il arrive. Même s'il faut mourir sur le terrain.
Vaincre ou mourir, le PSG sur la pelouse de Manchester City ce soir, battu 2-1 à l'aller. Les Parisiens vont devoir l'emporter par au moins 2 buts d'écart s'ils veulent revivre une finale de Ligue des Champions. Dans ce journal aussi, l'accompagnement psychologique des enfants de 3 à 17 ans perturbés par la crise sanitaire, il sera gratuit et proposé dans les prochains jours. Après l'alliance entre la droite et la majorité en PACA, Xavier Bertrand lui promet la clarté dans les Hauts-de-France et puis une sensibilisation du quotidien où quand les présentateurs météo se mobilisent pour alerter sur les enjeux climatiques.
Dans 10 minutes, on bat en brèche les idées reçues sur l'asthme en cette journée mondiale dédiée. Idées reçues, y compris chez les malades eux-mêmes. Symptômes, activités sportives, traitements, toutes les réponses de l'allergologue Sophie Grieux. Et puis la France bouge nous emmènera ce matin à Caen dans le Calvados. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Y croire, malgré tout, le PSG au pied du mur en Ligue des Champions. Ce soir, les Parisiens retrouvent Manchester City pour la demi-finale retour. Coup d'envoi à 21h.
Battu 2-1 à l'aller, le club de la capitale fait clairement figure d'outsider désormais. Et ce, d'autant plus que Kylian Mbappé est incertain, Julien Froment.
Effectivement, il s'est entraîné à l'abri des regards en marge du groupe, signe que les nouvelles ne sont pas bonnes. Kylian Mbappé, blessé au mollet, a peu de chances de débuter la rencontre ce soir. Une décision définitive sera prise dans la journée. Malgré cette incertitude, Paris doit continuer d'y croire. C'est en tout cas le message de l'autre star du groupe, Neymar, sur PSG TV.
Je pense que chaque Parisien doit croire en nous. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et je ferai tout pour ramener la victoire, cette fois, quoi qu'il arrive. Même s'il faut mourir sur le terrain.
Gagner et par deux buts d'écart, la tâche s'annonce ardue, mais pas insurmontable pour le milieu de terrain Marco Verratti.
C'est pas un match qu'on a perdu 4-0, qu'il faut faire un miracle. Il faut rester lucide, il faut rester calme, parce qu'on va avoir notre opportunité. On doit tout donner sur le terrain.
D'autant plus que le Paris Saint-Germain s'est fait un malin plaisir cette saison de réaliser ses plus grands exploits à l'extérieur. Manchester United, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. Il sait donc ce qu'il lui reste à faire pour disputer pour la deuxième année d'affilée la finale de la Ligue des Champions.
Eh ben, il n'y a plus qu'à Manchester City PSG, match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, émission spéciale dès 20h.
C'est un mot qui sonne comme un espoir, qui offre une perspective avec le début du déconfinement. C'est ce qui s'esquisse à nouveau la possibilité de partir en vacances.
L'Union européenne elle-même y pense avec une ouverture évoquée des frontières dès 27 cet été aux touristes étrangers qui auraient reçu 2 doses de vaccin, une mesure qui permettrait peut-être la réciprocité et donc les voyages des Européens dans des pays étrangers. En attendant de partir loin, eh bien certains profitent déjà en restant dans l'Hexagone, illustration dans un camping d'Argelès-sur-Mer qui a pu rouvrir hier. Benjamin Peters s'y est rendu pour Europe 1.
Je vous assure, ça fait du bien. Ça nous change la vie. C'est incroyable, incroyable, incroyable.
Sur sa terrasse, Patricia profite. Elle qui vient des Hauts-de-France est arrivée la première. Dès que la limite des 10 km a été levée, elle a voulu retrouver son mobil-home au camping du front de mer.
Bon, on pensait venir au mois d'avril, mais bon, avec le confinement, malheureusement, on a été tous coincés. Hein. Dès la réouverture, on est venus. J'ai pu décaler ma semaine de congé. C'est les vacances.
Sur près de 600 emplacements, seule une poignée sont déjà occupés. Mais cette ouverture, même sans l'ensemble des prestations, c'est déjà un soulagement pour la propriétaire Joël Fay.
Ça fait chaud au cœur. Hein. On s'est levé, on était content de penser qu'on ouvrait.
Ces conditions particulières, c'est quoi ?
Le restaurant, bar, voilà, ça sera emporté. Pas de piscine, pas d'animation pour le moment, voilà.
De leur côté, Dominique et son équipe de femmes de ménage s'activent avec un protocole sanitaire très strict.
On met une bombe spéciale qu'on fait péter dans le mobil-home, comme on dit, pour tout désinfecter. Et après, on refait le mobil-home comme on fait d'habitude, pour que tout soit carré quand les gens vont affluer, on espère. Sinon, on est mal, hein, patron, on est mal, ouais. Hein.
Alors la piscine devrait rouvrir à partir du 19 mai, ce qui n'empêche pas les réservations pour le week-end de l'Ascension. Quant au mois d'été, ils sont déjà presque complets. Alors je laisse sur mer, Benjamin Peter, Europe 1.
Un besoin de souffler ressenti aussi par les plus jeunes, particulièrement exposés face à la crise sanitaire.
Ah oui, plus de relations sociales, plus d'école et une situation anxiogène qui a affecté les enfants. D'où l'idée de leur proposer un accompagnement psychologique. Il sera lancé, Anne Le Gall, dès la deuxième quinzaine du mois.
Exactement, car depuis plusieurs mois, les passages aux urgences d'enfants de moins de 15 ans pour des troubles de l'humeur ou de l'angoisse dépassent ceux des années précédentes. Pour agir en amont, ce dispositif permettra donc d'avoir accès à des séances 100% remboursées par la Sécurité sociale chez un psychologue en ville. Elles seront accessibles sur prescription médicale aux enfants âgés de 3 à 17 ans. Et pour le docteur Gilles Lazimi, médecin généraliste et membre du comité scientifique de suivi de la santé mentale des jeunes, plusieurs changements de comportement peuvent alerter les parents.
Un peu d'agressivité ou alors un enfant qui a une régression. Par exemple, il était propre et il ne l'est plus. Un enfant qui est plus dans la confrontation, des difficultés à communiquer avec lui, un repli. Tous ces signes concourent à faire penser aux parents que son enfant va pas très bien. Donc, il y a des enfants qui seront vus sur une petite durée, 2-3 séances, et le problème sera réglé. Tous les enfants ne vont pas avoir forcément besoin d'autant de séances.
Et les rendez-vous se prendront sur Internet via une plateforme dédiée donnant accès à des psychologues qualifiés. Selon le gouvernement, le dispositif pourrait concerner jusqu'à 400 000 enfants d'ici la fin de l'année.
Une précision signée Anne Le Gall pour Europe 1.
Il est 5h36. Après l'alliance controversée avec La République En Marche en PACA, 2 réunions au sommet aujourd'hui au siège des Républicains à Paris.
Conseil stratégique d'abord ce matin, puis réunion ce soir de la commission d'investiture. Après qu'hier, Renaud Muselier a assuré qu'il n'y aurait pas de ministre ou de parlementaire sur sa liste en vue des régionales. Des élections pour lesquelles Xavier Bertrand a lancé sa campagne hier dans les Hauts-de-France. Le sortant, également candidat à la présidentielle, l'assure, lui restera fidèle à ses valeurs. Reportage pour Europe 1 de Lionel Gougelot.
Pas d'alliance au premier tour, pas d'alliance au deuxième tour. Le respect des électeurs, le respect de ses valeurs, c'est la clarté.
Le Nord ne copiera pas le Sud et pour le président sortant des Hauts-de-France, pas question d'un arrangement avec La République En Marche.
La tambouille politicienne, mais je laisse ça au président de la République.
Au contraire, cela permet à Xavier Bertrand, pour le lancement de sa campagne, de marteler ses engagements de clarté et de fidélité à ses valeurs.
Ma liste et mon projet seront exactement les mêmes au premier et au deuxième tour. Ne jamais trahir ses valeurs, respecter ses électeurs, c'est quelque chose d'essentiel en politique. Si certains font des choix différents, notamment en PACA, je le dis, c'est une tragique erreur qui ne peut conduire qu'à la défaite.
Lui se dit convaincu d'être le seul à pouvoir battre le Rassemblement National et ce rejet de l'alliance avec La République En Marche ne semble pas gêner les quelques élus macro-compatibles de sa liste, comme le maire centriste de Saint-Omer, François de Coster.
Je me sens totalement à l'aise dans la majorité présidentielle, mais nous sommes ici sur une élection régionale. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce projet et non pas de faire des additions ou de faire des combines. Et je crois que cette méthode-là, eh bien, nous la partageons totalement.
Parce que dans les Hauts-de-France, dit un de ses élus, si l'on peut être macro-compatible, on est surtout pro-Bertrand. Et à Maubeuge, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et dans le Grand Est, candidature également officialisée pour le Républicain sortant, Jean Rottner. Une possible commande à 4 milliards d'euros. L'Égypte en passe d'acheter 30 nouveaux Rafales à la France. Paris qui, selon le média d'investigation Disclose, aurait accordé un prêt garanti à hauteur de 85% pour que le Caire finance cet achat.
C'est pratique ça, on prête à ceux qui vont nous acheter ces... C'est le monde qui change aussi. Le procès de Nordal Lelandais, Marion Calais, deuxième jour. Après la personnalité de l'accusé, il sera question aujourd'hui des faits et du meurtre du caporal Arthur Noyer.
Dont Nordal Lelandais a assuré hier qu'il n'avait pas voulu lui donner la mort. Je demande pardon, a-t-il simplement affirmé. La justice et ses annonces hier du garde des Sceaux. 1000 embauches pour désengorger les tribunaux, notamment dans les affaires civiles, divorces, garde d'enfants ou décisions prud'homales. L'objectif, Justin Morin, c'est d'accélérer le traitement des dossiers.
Oui, effectivement, avec des premières arrivées en poste dès le mois de juillet. Le constat, c'est que dans les tribunaux, certains pôles se sont enlisés. Prenez par exemple les affaires familiales. En France, il y a 400 000 dossiers qui attendent d'être traités. Le délai moyen, c'est 15 mois et ça pose problème pour des décisions aussi importantes qu'un divorce dans la vie des justiciables. Ces renforts seront constitués de juristes ou d'étudiants en droit, employés pour une durée de 1 ou 3 ans. Ces profils sont déjà utiles pour faire des recherches, préparer, rédiger les procédures, les décisions, comme l'explique Véronique Léger. Elle est vice-présidente chargée des affaires familiales au tribunal de Carpentras.
Moi, je travaille avec un assistant de justice, son rôle est important et c'est un travail qui soulage le service des affaires familiales dans son ensemble. Mais de passer par cette situation temporaire d'embauche, c'est un peu dommage parce qu'au moment où ils commencent à être bien formés, on les voit repartir. On a parfois un peu l'impression de ne pas forcément avoir un retour sur cet investissement.
En plus de ces recrutements, le ministère de la Justice souhaite aussi encourager les procédures de médiation sans saisie d'un juge. L'objectif, c'est que le délai de traitement d'une affaire civile soit réduit à 6 mois en moyenne d'ici 3 ans.
Précision signée Justin Morin et on y revient avec mon invité tout à l'heure à 6h40, la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, Anne-Sophie Valac. Enfin, à défaut de cours spécifiques à l'école ou à l'université, et si l'éducation aux enjeux climatiques passait par les bulletins météo.
Oui, alors que se tient en ce moment le Forum international de la météo et du climat, les présentateurs météo font figure de relais essentiel pour une sensibilisation quotidienne, des messages d'ailleurs qu'ils s'efforcent de passer pour Europe 1. Virginie Salmen.
Oui, par exemple, Laurent Romeschko, présentateur météo sur France 3, emploie le terme de dérèglement climatique dans ses bulletins.
Les premiers signaux du dérèglement climatique, on les ressent et c'est à nous d'en faire part. Donc on a ce rôle, effectivement, de dire, bah voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est rare, c'est jamais arrivé, ou ça arrive une fois tous les 50 ans ou tous les siècles. Et là, c'est arrivé 3 fois en 5 ans. C'est un signe fort que la machine se dérègle. Ça, c'est le message qu'on fait passer. Et je pense qu'il est entendu en plus.
Evelyne Delia, présentatrice météo depuis 1992 sur TF1, estime être la première à avoir ponctué ses bulletins météo d'informations sur le réchauffement climatique.
Je sais qu'au début, ça a été très, très difficile pour les téléspectateurs de comprendre. Parce que quand je leur disais, on a 5, 6 degrés de différence en l'espace de 24 heures, et leur dire, il va y avoir 2, 3 degrés en l'espace d'un siècle, c'était très difficile pour eux. Et c'est à l'intérieur justement de ces bulletins que petit à petit, l'idée de ce réchauffement climatique est vraiment entrée dans l'esprit des gens.
C'est dans les bulletins météo qu'on a vu les premières images de la fonte de la calotte glaciaire en Arctique ou encore de la déforestation en Amazonie.
Virginie Salmen.
Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion, il est 5h41. Place aux courses avec vous Thierry Léger. Quels sont vos pronostics ?
Je
C'est sur l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce quintet, un marathon sur la distance de 3000 mètres, et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Magical Forest, le numéro 4, irréprochable depuis de nombreux mois, et dont la récente 6e place à ce niveau sur la piste en sable fibré de Chantilly, à l'issue d'une fin de course remarquée, me permet de vous affirmer qu'il sera cette fois très compétitif pour la victoire. On lui opposera Max Lafripouille, le numéro 7, le doyen de ce peloton, qui du haut de ses 9 ans est toujours aussi performant. Derrière, je vous recommande les numéros 10, Albir, et 8, Bellariva, classés dans cet ordre aux deux premières places d'un quintet similaire, début avril à Saint-Cloud, sur la distance qui nous intéresse, mais aussi Chengpon Charlie, le numéro 3, souvent vu à son avantage à Chantilly, et qui évoluera sur une piste à peine souple, indispensable pour qu'il puisse fournir sa meilleure valeur. Enfin, les numéros 2, Armisian, 5, Gourel, et 1, Baratin, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 7, 10, 8, 3, 2, 5 et 1.
C'est bien noté, merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Théo Manval sur Europe 1.
Et en cette journée mondiale de sensibilisation autour de l'asthme, j'ai le plaisir d'accueillir la première invitée de ce 5-7. Bonjour docteur Sophie Grieux.
Bonjour.
Vous êtes allergologue et membre de l'association Asthme et Allergie. L'asthme touche environ 4 millions de personnes en France, selon les chiffres de l'assurance maladie. Et pourtant, c'est une maladie justement encore insuffisamment connue, y compris chez les malades.
Oui, y compris chez des malades qui sont pourtant suivis. La preuve est donc qu'il faut répéter les messages et expliquer les choses, parce qu'il y a encore beaucoup de malentendus ou d'idées reçues contre lesquelles on doit lutter, oui.
Et vous profitez justement de cette journée mondiale pour revenir sur plusieurs idées reçues. Je voudrais qu'on le fasse aussi avec vous. Déjà, il n'y a pas un, mais des asthmes. Ça, il faut le redire.
Exactement. Il y a plusieurs types d'asthme. Il y a plusieurs profils de gens asthmatiques. Certains sont allergiques, d'autres pas. Certains asthmes sont légers, d'autres sont sévères. On voit toutes sortes de profils. Et effectivement, il n'y a pas une seule façon d'être asthmatique. Et il n'y a pas une seule façon de soigner, du coup, les asthmatiques.
Et la première idée que les médecins comme vous entendent souvent, si je ne fais pas de crise, finalement pas d'inquiétude, ça veut dire que mon asthme va bien.
Oui, alors on sait que dans l'asthme, c'est l'histoire de l'iceberg, il y a la partie visible, ce sont les crises que les gens reconnaissent bien, et encore pas toujours, parce qu'elles sont parfois typiques, des grandes crises d'étouffement avec des sifflements dans la poitrine, mais ça peut être une simple petite toux, ça ce sont les symptômes qui sont visibles ou audibles en tout cas. Mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des petites bronches et qu'on ne ressent pas forcément. C'est pour ça que on doit surveiller les asthmes en dehors des crises, mesurer la fonction respiratoire et ne pas arrêter les traitements de fond qui doivent être pris en continu jusqu'à une nouvelle évaluation de l'asthme pour permettre éventuellement de les diminuer ou de les interrompre.
Justement, il y a des malades qui se disent aussi que quand ils n'ont pas de symptômes ou pas de symptômes détectables, ils peuvent arrêter leur traitement de fond. Il faut surtout pas le faire.
Il faut pas le faire parce que les bronches peuvent être enflammées, pas suffisamment pour créer des symptômes, mais suffisamment pour être vulnérables. Et cette inflammation persistante rend le risque de crise plus grand. Il faut absolument lutter contre ça. Et par ailleurs, cette inflammation peut finir par abîmer les bronches de façon irréversible si on ne traite pas.
Alors, il y a les traitements de fond, il y a aussi les traitements en période de crise. On pense évidemment à l'inhalateur, la fameuse Ventoline, qui est elle aussi finalement assez mal maîtrisée par les patients. Certains pneumologues estiment qu'un patient sur trois a une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation de cette Ventoline.
Et c'est vrai que la prise de Ventoline, qu'on voit souvent, qu'on a l'impression de bien connaître, nécessite une grande coordination. On doit coordonner quelque chose qui n'est pas du tout naturel, le fait de mettre un embout dans la bouche, d'appuyer sur le spray et d'inhaler exactement au bon moment. Et si on ne coordonne pas bien tout ça, on a une déperdition du produit qui peut aller jusqu'à 90%. C'est vrai pour
alors
le spray
on peut redonner...
de Ventoline, mais c'est vrai aussi pour le traitement de fond. Donc on a effectivement à notre disposition des systèmes d'inhalation qui tiennent compte de ce problème d'inhalation. Et on dispose de plusieurs outils pour éduquer, pour expliquer à nos patients comment bien utiliser son inhalateur.
Justement, on peut redonner les conseils de base ce matin. Est-ce qu'il faut déjà les secouer avant usage, les amorcer? Combien de temps est-ce qu'il faut retenir sa respiration?
Alors, pour les sprays classiques, il faut commencer par vider ses poumons, par souffler. Moi, j'explique à mes patients qu'on ne peut pas remplir un verre déjà plein. Donc, on vide ses poumons.
en secouant l'inhalateur qu'on met ensuite dans la bouche. On inspire profondément. On retient son souffle quelques secondes, ça dépend des patients. On n'est pas obligé de faire une minute d'apnée, hein, c'est pas le grand bleu. Hein. On expire et de cette façon, le traitement est bien inhalé. S'il s'agit d'un traitement de fond qui contient de la cortisone, comme c'est souvent le cas, il faut se rincer la bouche après la prise.
D'accord. On peut conseiller d'ailleurs à nos auditeurs ou aux parents de jeunes enfants qui nous écouteraient d'aller sur la plateforme en ligne sur Internet qui s'appelle Zephyr, où il y a plusieurs vidéos de tutoriels et de conseils qu'on peut même regarder sur son téléphone pour s'assurer de faire ses inhalations correctement. Est-ce qu'il est vrai, autre idée reçue, docteur Sophie Grieux, que quand on est asthmatique, il vaut mieux éviter de faire du sport? Est-ce que c'est vraiment incompatible?
Mais c'est absolument faux. Il faut faire du sport quand on est asthmatique et quand on n'est pas autant que quand on n'est pas asthmatique. Simplement, il faut adapter son sport à son état respiratoire. Il est bien évident que si on est en pleine crise ou dans une période où l'asthme ne va pas bien, on va attendre un peu d'avoir rééquilibré son asthme pour refaire du sport. La deuxième chose, c'est qu'on va adapter son sport à d'éventuelles allergies. Si on est allergique au pollen, on va pas aller courir dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne en pleine journée quand il fait beau, ce qui risquerait de faire inhaler une grande quantité de pollen et de justement déclencher des crises. On doit aussi s'échauffer correctement et on doit avoir son traitement de secours avec soi au cas où on déclencherait une crise. Il faut avoir son inhalateur de secours et effectivement s'assurer que l'asthme est bien contrôlé pour faire du sport.
On a beaucoup parlé évidemment des maladies respiratoires dans cette période de coronavirus. Depuis samedi dernier, les personnes asthmatiques peuvent désormais se faire vacciner. C'était important ça aussi?
Mais c'était important pour les asthmatiques comme pour tous les patients, comme pour la population en général. Les asthmatiques, quand il s'agit d'asthme modéré, ne sont pas particulièrement à risque, pas plus que les
autres. C'est pas un facteur aggravant, l'asthme modéré, en tout cas, avec le coronavirus.
L'asthme modéré n'est pas un facteur aggravant, ni pour ce qui est du risque d'attraper le virus, ni pour ce qui est d'un risque de forme sévère. C'est-à-dire que nos patients, et fort heureusement, n'ont pas été plus touchés par les formes sévères de la maladie. En revanche, en cas d'asthme sévère ou mal contrôlé, oui, là, les patients deviennent à risque. L'autre chose à rappeler aussi dans les idées reçues, c'est que les gens qui ont des allergies respiratoires ou alimentaires n'ont pas de risque particulier avec le vaccin. Les asthmatiques allergiques peuvent être vaccinés sans aucune restriction, sauf s'ils ont des antécédents d'allergies médicamenteuses graves, mais ces cas sont très rares, fort heureusement.
Et c'est important de le rappeler. Une toute dernière question, docteur Sophie Grieux, il y a le Covid et puis il y a aussi les pollens qui arrivent, vous en avez parlé tout à l'heure, je peux en parler moi aussi d'ailleurs. Est-ce que ça accentue les difficultés des personnes asthmatiques en ce moment?
Alors là, très nettement, hein, les pollens d'arbres qui sont en train d'être présents, de diminuer un petit peu dans l'atmosphère et de graminées qui démarrent et qui vont augmenter comme ça en juin, juillet, là, ce sont de vrais facteurs aggravants de l'asthme. C'est des moments où il faut particulièrement être vigilant sur la poursuite régulière du traitement de fond. Il faut prendre en charge ses allergies. Il faut s'informer sur les pollens. Il y a des sites comme le site du RNSA qui donne des informations et des bulletins polliniques. Et c'est très important d'être informé parce que mieux on identifie les pollens et l'état de la pollinisation, mieux on peut anticiper et prévoir avec ces traitements de fond. Et quand les pollens sont en plus, aux pollens s'ajoutent les pics de pollution, raison supplémentaire d'aggravation d'un asthme et nécessité d'adaptation du traitement à nouveau.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Sophie Grieux, allergologue et membre de l'association Asthme et Allergie. Merci d'être venu décortiquer et corriger pour nous ces idées reçues. On va retrouver d'ailleurs vos vérifications, vos réponses sur notre site europe1.fr. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
Europe 1.
Il est 6h10, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïk Monnier, où est-ce que vous nous emmenez ce matin?
On part à Caen découvrir une ressourcerie pas tout à fait comme les autres. Elle est spécialisée dans les pièces détachées de jeux de société.
Les Français ont des idées, on vous le montre dans une minute.
Europe 1, Théo Manval.
L'essentiel ce matin, il pèse 124 milliards de dollars. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a annoncé cette nuit son divorce. Mais il continuera de travailler avec sa femme Melinda pour la fondation caritative qui porte leur nom, considérée comme la plus grande fondation privée au monde. Conseil stratégique ce matin, puis réunion de la commission d'investiture. Les Républicains se penchent officiellement sur l'alliance polémique conclue en PACA entre Renaud Muselier et La République En Marche. Et une enquête de l'IGPN ouverte à Marseille après l'arrestation d'un couple
ce week-end. Deux policiers de la BAC sont soupçonnés de violence. Ils ont été réaffectés temporairement en attendant les conclusions des investigations. Et puis 21h ce soir, le PSG sur la pelouse de Manchester City pour tenter de renverser la tendance et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions après la défaite 2-1 au match aller.
Écoutez Le Monde Changé avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1. Et direction le Calvados ce matin, Lénaïque Monnier.
Oui, avec cette société Refaites vos jeux, inventés par Antoine Gallet. Comme tout le monde, il a commencé son tout premier confinement il y a un an en regardant des séries, en faisant des jeux de société. Mais on l'a tous vécu, jouer à puissance 4 quand il manque un jeton, que la clé à molette a disparu du Cluedo ou que le docteur Maboul n'a plus ses organes, la partie est complètement ratée. Alors pour éviter que le jeu tout entier ne se retrouve dans une benne à ordures, Antoine Gallet cherche, débusque et vend au détail ses petites pièces. Au départ, tout se passait sur une simple page Facebook, mais en très peu de temps, il a eu plus de 12 000 demandes. Ah oui. Et c'est comme ça qu'il a monté son site de vente.
Et alors, est-ce qu'on trouve de tout ?
Alors, à peu près 250 références, c'est pas mal du tout.
Beaucoup.
Le site fonctionne comme un catalogue. Alors après, c'est une question de génération. Les stocks concernent surtout les jeux de société période 70-90, okay. Ceux qui sont attachés à nos souvenirs d'enfance, pour certains d'entre nous en tout cas, ou qu'on veut faire découvrir au plus petit, il y a déjà plus de 110 commandes qui ont été effectuées.
Vendre au détail des pièces de jeux de société récupérées, c'est aussi une façon de ne pas racheter de nouveaux jeux.
Oui, on peut éviter le gâchis du jouet, tout comme pour les aliments. Pourquoi racheter plateaux et pions quand il ne manque qu'une carte dans un jeu, par exemple ? L'essentiel de pièces se trouve à la recyclerie de Caen. Certains jeux ne sont pas encore sur le site parce qu'Antoine Gallet ne souhaite pas qu'il y ait trop de transport. Mmh. Et du coup, il va ressortir de sa caverne d'Ali Baba une sorte d'exposition à l'occasion de la journée du développement durable qui sera organisée par la mairie de Caen au mois de juin 2021 en se rendant sur place.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Vous partagez avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Eh bien, c'est le retour du cinéma. 15 jours tout pile de la réouverture des salles obscures dans l'Hexagone. Les plus grands studios sortent le grand jeu. Et hier, c'est Marvel qui a publié une vidéo de 3 minutes pour annoncer ses futures sorties. On your left. Partageons des moments inoubliables, peut-on lire sur la bande-annonce, et puis ces cris, c'était lors d'une avant-première d'Avengers. Alors tenez-vous bien, Marvel va sortir pas moins de 10 films en 2 ans. C'est énorme, il faut bien rattraper une année 2020 blanche, une première dans l'histoire du studio hollywoodien. Alors je vous en donne quelques-uns, que des grosses productions. Le premier, ça sera Black Widow avec Scarlett Johansson, sortie prévue en juillet. Viendra ensuite Shang-Chi et la légende des 10 anneaux le 1er septembre. Eternals le 3 novembre, un film très attendu avec un casting de rêve, et Chloé Zhao qui vient de remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice derrière la caméra. À voir aussi prochainement Spider-Man, Thor ou encore Les Gardiens de la Galaxie. Ça faudra attendre un peu, ça sera pour 2023.
Ah, Les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai hâte. Il y a une sortie qui a particulièrement fait réagir les internautes, Martin.
Oui, c'est celle de Black Panther 2, Wakanda Forever, c'est son nom. Un nouvel opus très attendu après le succès du premier, devenu une sorte de symbole du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et puis surtout depuis le décès de Chadwick Boseman, l'interprète du héros T'Challa. Comment Marvel va gérer la succession ? Les internautes en salivent déjà. Il s'agit du titre parfait. Ça ne sera pas seulement une suite, mais aussi un hommage à Chadwick. C'est lui qui a porté tout l'engouement sur ses épaules, écrit Big Pearl. De l'attente, de l'engouement, mais de l'émotion aussi. Je sens que je vais tremper mes popcorns dans mes larmes, craint Winnie. Alors, pour voir Wakanda Forever, il faudra attendre un peu. Sortie en salle prévue pour juillet 2022, dans un peu plus d'un an. Donc.
On prend date. Merci Martin, merci Lénaïque. À tout à l'heure.
C'était La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours avec On de la Traconte. Aujourd'hui, dernière guillotine à Tarbes. En 1944, Pierre Sost, le maire du village de Créchet, est retrouvé mort dans sa cuisine avec sa mère, son domestique et l'un de ses amis. Une histoire qui se termine par 3 coups de lame sous la guillotine, nous racontera Christophe Ondelat. Le récit dans On de la Traconte à 14h, c'est à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
À 5h56 sur Europe 1, il est l'heure de s'intéresser à notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'un bateau un peu spécial, sans équipage et sans capitaine, qui s'apprête à traverser l'océan Atlantique.
Il s'appelle le Mayflower 400, en hommage au bateau originel qui a bravé l'Atlantique il y a 400 ans pour rallier l'Amérique. Son descendant est un bateau absolument futuriste, le tout premier bateau intelligent capable de se déplacer et de prendre tout un tas de décisions tout seul. Tout comme son ancêtre d'il y a 400 ans, ce trimaran traversera l'Atlantique de Plymouth au Royaume-Uni à Plymouth dans le Massachusetts états-unien. Sauf que cette traversée se fera sans personne à bord. Le but d'envoyer un bateau sans passagers et de pouvoir explorer l'océan sans contrainte de ravitaillement de nourriture, et cela 24 heures sur 24. Ce bateau va sans aucune aide analyser la faune, les composants de l'eau, le taux de plastique ou encore enregistrer les grands mammifères marins à l'aide d'hydrophones.
Et alors comment est-ce qu'on s'y est pris pour rendre ce bateau autonome, Fanny ?
Eh bien, le capitaine est tout simplement une intelligence artificielle capable d'identifier des obstacles maritimes et éviter les collisions. Ce bateau a même été envoyé en mer pour un apprentissage supervisé pendant lequel on lui disait ce qui était une bonne ou une mauvaise action ou une action dangereuse. Pas d'humain à bord donc, mais tout de même trois informaticiens qui contrôlent ses équipements à distance et une ingénieure qui vérifie les moteurs qui tournent à l'énergie solaire.
Et alors à qui et à quoi vont servir les informations collectées ?
Alors, des centaines d'intervenants venant de pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou l'Inde se sont penchés sur le projet pour lui faire voir le jour rapidement pour qu'il récolte le maximum d'informations. L'océan, c'est vraiment la force la plus puissante de la planète qui régule notre climat. Mais 80% de l'océan reste inexploré du fait de sa dangerosité et de son immensité. Ce bateau, c'est un petit peu comme la première station maritime internationale, car le Mayflower 400 va se comporter un peu comme les robots envoyés dans l'espace. Il va conduire un travail d'analyse méthodique qui semble anodin comme ça, mais qui va nous en dire beaucoup plus sur la distribution des populations des animaux marins ou encore la composition de l'eau. Alors à vos comptes Twitter pour suivre en direct sur le compte dédié les aventures du Mayflower 400. Son grand départ sera aux alentours du 15 mai.
Et on suivra ça. Merci beaucoup Fanny Agostini. À demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous sur Europe 1. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce mardi 4 mai.
Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer le recrutement de 1000 emplois publics dans les juridictions dans les 3 prochains mois. Pour accélérer le traitement des affaires civiles et en réduire le stock qui s'élève à 1 300 000 dossiers.
Un millier de postes en plus pour la justice du quotidien. Pour tenter de réduire les délais dans les affaires de divorce, les contentieux au prud'homme, le ministre de la Justice en a fait l'annonce hier. Mais quels postes précisément ? Est-ce qu'ils permettront vraiment d'être plus rapides, plus efficaces ? Le regard à 6h40 du syndicat de la magistrature, sa secrétaire nationale Anne-Sophie Vallac est mon invitée. On parlera aussi du projet de réforme de la justice pénale qui arrive demain à l'Assemblée. Jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous emmènera des États-Unis à l'Argentine en passant par l'Allemagne. Et puis comme tous les jours, notre respiration musicale. Leon Bridges, ce sera dans la partition d'Omblin Roche à 6h25. Mais avant cela, Laurent Cabrol, la météo du jour.
Eh bien ça s'arrose. La première perturbation qui traverse la France. On l'arrose copieusement. Oh, elle n'est pas très très forte, mais enfin, les vents sont très violents. J'en parlais tout à l'heure, et ces vents se calment un petit peu. Ça, c'est la bonne nouvelle du petit matin. Sur Boulogne-sur-Mer, ils étaient à 130 km/h. Ils sont maintenant à 110. À Barneville-Carteret, en Manche, ils sont maintenant à 90. 80 km/h sur la région de Calais. La pluie est arrivée par la Manche, bien sûr. Et la voici qui s'intègre dans le pays. Je reviendrai tout à l'heure en détail sur le découpage que je vous propose. Mais sachez que les éclaircies seront de retour sur la région parisienne, la Champagne et la Lorraine, que nous aurons de plus en plus de nuages sur le Massif central, Bourgogne et Alsace, et que le ciel restera couvert, mais impression agréable sur les régions du sud. Voilà, vous savez presque tout. 14 à 19 degrés, ce sont les températures du jour. Allez, on y revient tout à l'heure.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une
Laurent
demi-heure.
Martin, le 5-7.